Donc, comme l'a dit Farida, je vais revenir sur notre démarche, hein, sur ce qu'on cherche effectivement à faire dans le cadre de ces élections d'abord, et puis ensuite, chacun aura la parole. Voilà. Alors, avant d'en arriver à notre démarche dans les élections, je voulais quand même revenir sur ce qui s'est passé hier, sur le 1er mai. D'abord pour dire que vous l'avez peut-être vu, mais ce sont des manifestations qui ont été plus nombreuses que l'année dernière. Hein. Plus nombreuses que l'année dernière et à Paris, en province, enfin bon, à l'échelle du pays. Et ça s'explique, hein. Ça s'explique par la contestation sociale qui continue hein, depuis maintenant plus de 4 mois et qui effectivement encourage de plus en plus, en tout cas qui a encouragé voilà, à être présent à ce 1er mai. Voilà. Et je voulais aussi parler de ce qui s'est passé à Paris et hein, de cette présence aussi des Black Blocs, parce que vous avez forcément vu qu'ils avaient marqué aussi ce 1er mai. Alors, en réalité, enfin, comment dire, les actions violentes des Black Blocs et leur stratégie hein, de s'affronter systématiquement avec les forces de l'ordre a peut-être un certain succès hein, parmi des gilets jaunes et puis parmi tous ceux qui ne supportent plus la situation, qui en plus ont quand même au travers de la gorge, enfin sont très remontés et à juste titre hein, contre les forces de l'ordre, qui ont quand même tiré sans hein, les LBD, les coups de matraque, ça, voilà, ça, hein, ça a été distribué quand même dans tous les sens depuis cette manifestation, depuis hein, le début de ces manifestations. Alors c'est sûr hein, que l'exaspération, elle est là, elle est là et elle est bien là. Et nous, si nous ne sommes absolument pas de ceux qui avons envie de crier avec les loups. Quand, par exemple, le Fouquet's se brûle ou quand quelques magasins sont, quelques vitrines de grands magasins sont cassées sur les Champs-Élysées. Hein. Absolument pas. On pense que finalement, cette violence, et qui est quand même à relativiser beaucoup, hein, c'est le retour de flamme d'une société qui est très violente, hein, qui l'est de plus en plus. Avec cette misère, avec ce chômage, avec des millions de femmes et d'hommes qui se sentent et qui sont abandonnés réellement par les pouvoirs publics, hein, une société qui est de plus en plus inhumaine et barbare par plein d'aspects. Alors, moi, quand je les entends dire hein, comment on va faire pour maintenir l'ordre, etc., hein, la réalité, c'est que leur ordre injuste, ils n'arriveront pas à le maintenir. Hein, et ils auront effectivement des réactions de ce type-là de plus en plus. C'est ça la réalité. Ceci dit, nous ne partageons pas cette politique, enfin, cette stratégie des Black Blocs. Cette stratégie, parce qu'en réalité, je pense que ce n'est pas une politique. En tout cas, pour les travailleurs, ce n'est pas une politique. Ce n'est pas une politique. Alors, les Black Blocs expliquent qu'ils sont pour l'insurrection, ils sont des révolutionnaires, et d'ailleurs, la révolution, ils la font. Bon, eh bien, nous, pour nous, hein, la révolution, c'est le renversement de la bourgeoisie. C'est l'expropriation de la classe capitaliste. Et faire la révolution, c'est que les travailleurs y prennent le pouvoir, qu'ils prennent le pouvoir politique et qu'ils prennent le pouvoir sur ces citadelles capitalistes que sont les grands groupes industriels et financiers. Et cette révolution-là, cette révolution ouvrière que nous appelons, nous, de nos voeux, eh bien, elle ne sera pas faite par une minorité. Hein, fut-elle courageuse et prête à dépaver un certain nombre de rues et à les balancer sur les forces de l'ordre. La réalité, c'est que si on veut effectivement hein, que les travailleurs ils accèdent au pouvoir, eh bien, cela ne peut se faire qu'avec la mobilisation consciente de la grande masse des travailleurs, avec leur participation active, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'ailleurs de renverser la bourgeoisie, de détruire la société capitaliste. Il s'agit de rebâtir une société collective, organisée, ensemble. Et ça nécessite l'action et la participation de tous, ça nécessite de la démocratie, ça nécessite de la conscience largement partagée, encore une fois. Alors, Là, je crois qu'on l'a pas sur nos murs, mais vous savez, souvent, nous reprenons ce slogan « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Ce n'est pas pour décorer nos salles, c'est notre politique, véritablement notre politique, c'est-à-dire qu'on pense effectivement, on le redit à chaque élection, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de sauveur suprême. Hein, les travailleurs, effectivement, devront s'émanciper eux-mêmes. Mais c'est pareil dans la rue, c'est pareil dans les manifestations, et c'est pareil dans les luttes collectives et dans les grèves. Les travailleurs n'ont pas besoin de Zorro. Voilà, à partir du moment où ils agissent collectivement, eh ben, ils ont besoin de discuter, de décider ensemble de où ils vont, quelle est leur politique, de faire les choix ensemble sur les moyens qu'ils utilisent. Et nous pensons que c'est ainsi que les travailleurs deviendront plus conscients, plus confiants aussi dans leur propre capacité, non seulement à diriger leur mouvement, mais à diriger toute la société. Alors nous voilà la politique que nous portons, hein, que nous portons et que nous voulons défendre, que nous défendons quand nous militons au jour le jour. Et vous voyez, y compris aujourd'hui, je le sais, c'est pas qu'une question de Black Bloc, c'est de façon plus générale. Prenez tous ceux qui sont impatients, qui voient que les luttes de la classe ouvrière, elles ne sont pas encore là, il n'y a pas encore cette combativité qui serait nécessaire pour changer les choses. Tous ceux-là sont très impatients et du coup considèrent que les moyens du mouvement ouvrier, c'est-à-dire les grèves, les manifestations, l'action militante, le fait y compris de s'organiser dans des syndicats, à la base, dans les entreprises, que tout ça, c'est ringard. Tout ça ne sert plus à rien, que tout ça, c'est fini, que c'était un autre temps. Eh bien, nous pensons précisément... nous pensons qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que cela, effectivement. Et y compris, se présenter aux élections, mener le combat politique, eh bien, ça fait aussi partie des moyens politiques que les travailleurs ont pour se regrouper et pour gagner en conscience de classe. Voilà, je voulais démarrer là-dessus et pour dire que notre démarche dans les élections, en réalité, je voulais déjà en gros tracer avec cette petite introduction. Hein, nous, contrairement à tous les candidats qui se présentent dans ces européennes et qui rivalisent pour gouverner, entre guillemets, les institutions européennes ou alors dans d'autres élections, les institutions françaises, nous pensons que les travailleurs, ils ne changeront pas leur sort par les élections. Nous sommes convaincus qu'ils transformeront justement, qu'ils changeront leur sort par des mobilisations puissantes, par des luttes collectives. Voilà. Bon, maintenant, il ne suffit pas d'en appeler aux grèves, d'en appeler aux mobilisations. Et d'ailleurs, on le voit aussi en partie dans le mouvement des Gilets jaunes. Oui, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre. Ça ne résout pas tout. Hein. Une fois qu'on est prêt à se battre, la question c'est de savoir pour quels objectifs on se bat. Comment on s'organise, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, nous pensons que ce n'est pas qu'une question d'en appeler aux luttes. C'est aussi la question de quelle est la politique pour les travailleurs. Il faut que les travailleurs ils fassent de la politique. Il faut qu'ils aient leur programme. Il faut qu'ils aient leur perspective. Ça ne suffit pas de rejeter toutes les politiques des partis bourgeois. Il faut que les travailleurs ils aient la leur politique. Et nous, c'est la raison pour laquelle on se présente systématiquement aux élections. C'est pour proposer une politique aux travailleurs qui leur permettra de faire véritablement avancer leur sort et qui leur permettra d'inverser le rapport de force avec la classe capitaliste. Alors, dans ces élections, notre démarche, elle est simple. C'est de proposer un programme, qui est encore une fois pas un programme électoral, qui est un programme pour les luttes. Ce programme, c'est bien sûr le programme qui permettra d'augmenter le pouvoir d'achat. La question qui a été posée d'ailleurs par les Gilets jaunes, mais que les Gilets jaunes à laquelle les Gilets jaunes n'ont pas réellement répondu, justement. Hein, parce que nous pensons que l'augmentation du pouvoir d'achat, elle doit passer d'abord et avant tout par une augmentation des salaires, par une augmentation des pensions de retraite, des allocations en général. Il faut effectivement revendiquer cette augmentation. Cette augmentation, ça doit être un rattrapage, elle doit être considérable. Nous, on pense que le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 200 euros net, eh bien, il doit être porté au minimum à 1 800 euros net. Et il faut que cette augmentation, elle soit indexée sur l'inflation. Sinon, si on ne parle pas des salaires et des prix, eh bien la réalité, c'est que on va se faire avoir. Et regardez comment Macron a répondu à cette revendication du pouvoir d'achat, en jouant toute une série de micmacs autour des impôts. Mais ce qu'ils nous prennent, ce qu'ils nous donnent d'une main, ils nous le reprennent de l'autre. C'est ça la réalité. On pourra en discuter tout à l'heure. Hein. Mais la question du pouvoir d'achat, c'est d'abord la question de ce qui tombe sur notre compte en banque. Donc effectivement, cet objectif, ça doit rester un objectif de lutte fondamentale. Augmentation des salaires et des pensions de retraite et indexation sur les prix. Le deuxième point, qui nous semble aussi incontournable et une mesure de sauvegarde, c'est combattre le chômage. C'est revendiquer un emploi pour chacun, un emploi pour tous. Voilà. Il faut donc interdire ces suppressions d'emplois, ces licenciements. Et on voit encore dans l'actualité, hein, vous avez vu avec les annonces d'Auchan, hein, qu'ils ne se gênent pas pour encore une fois supprimer 800 emplois. Mais il y a aussi des usines qui ferment en France, hein, aujourd'hui, un certain nombre. Bon, bah, Ford, mais aussi PSA. PSA qui est très prospère, hein, et qui ferme des usines. Et là, même dans la région, sans doute que vous avez des noms, que je n'ai pas moi en tête. Mais bon, en réalité, voilà, ça continue. Donc nous pensons qu'il faut interdire ces fermetures d'usines et interdire ces suppressions d'emplois. Et pour résorber les 6 millions de chômeurs, eh ben, il faut créer des emplois massivement. Ça veut dire qu'il faut répartir le travail entre tous, sans perte de salaire. Il faut faire exactement l'inverse que ce que le gouvernement nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire de travailler plus. Hein, ça, c'est ce que le gouvernement nous demande et ce qui va finir par nous imposer, effectivement, avec sa réforme des retraites. Ben, nous pensons au contraire. Au contraire, il faut que chacun travaille moins de façon à pouvoir répartir le travail entre tous, encore une fois, sans perte de salaire, bien sûr. Alors, vous comprenez bien que tout ça sont des objectifs de lutte. Ce n'est pas un programme que nous pourrions, du haut du Parlement européen, imposer. Hein, parce que c'est... Bien sûr, une question de rapport de force. Cet argent-là, il va falloir le prendre sur les profits. Il va même falloir aller l'arracher, cet argent-là. Hein, l'arracher en leur faisant peur, hein, en se faisant craindre. Donc ça nécessite des mobilisations puissantes. Et nous pensons que dans ces mobilisations, il faudra que les travailleurs aient en tête un troisième objectif, fondamental également. C'est celui de contrôler l'argent qu'il y a dans ces grands groupes industriels et financiers. Parce que vous voyez, dans le mouvement des Gilets jaunes, on a beaucoup discuté de contrôle, mais c'était le contrôle sur les impôts. Qu'est-ce que l'État fait de l'argent de nos impôts? Où est-ce que cela va? À quoi sert-il? C'était tout à fait légitime, et nous, on est tout à fait d'accord, il faut cette transparence-là, bien sûr. Mais pourquoi s'arrêter à l'argent public? Et pourquoi pas revendiquer ce contrôle sur l'argent de ces grandes entreprises? On y passe nos vies. Dans ces boîtes. C'est nous qui les faisons tourner. Les heures de travail qu'on donne dans ces entreprises, c'est en quelque sorte notre impôt, en nature, voilà, qu'ils nous prennent. Le fruit de ce travail, le fruit de ce labeur, où est-ce qu'il passe? À quoi est-il utilisé? Hein, on peut bosser dur, de plus en plus, et puis en fin d'année, on se retrouve face au patron qui nous explique que de toute façon, il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires, il n'y a pas d'argent pour embaucher, il n'y a pas d'argent pour acheter des machines qui pourraient soulager ou en tout cas améliorer les conditions de travail. Enfin voilà, à les entendre, il n'y a jamais d'argent. Hein. Regardez ce qui se passe à Auchan. Ils vont nous expliquer qu'ils sont en perte, hein, que les pauvres, ils sont près de la faillite et qu'ils n'ont pas le choix. Il faut forcément qu'ils ferment ces magasins et qu'ils mettent à la porte les 800. Eh bien, nous disons qu'ils... Voilà, qu'on aille voir l'argent. L'argent qu'ils ont accumulé, l'argent qu'ils ont provisionné, l'argent qu'ils ont mis de côté. Hein. Et puis, si cet argent, il n'est plus dans les comptes d'Auchan, eh bien qu'on aille voir la fortune de Muliez. Hein. Voilà, cette grande famille qui prospère depuis des décennies sur l'exploitation, effectivement, des salariés de ce grand groupe. Donc, voilà les perspectives qu'on a. Parce que si on ne se donne pas les moyens... Hein, d'aller voir, d'aller mettre nous-mêmes notre nez dans l'argent qu'il y a ou pas, dans ces grands groupes, et dans l'argent qu'il y a en fait, hein, eh bien on sera toujours à leur merci, à la merci de leurs mensonges, otages de leur chantage. C'est ça la réalité. Donc voilà pourquoi nous parlons de ces trois points, de ces trois objectifs. Ça constitue notre programme pour les élections européennes. Ce sont des objectifs, ce sont des points de repère que nous voulons populariser, que nous voulons mettre dans la conscience des travailleurs. Parce que nous ne doutons pas que tôt ou tard, massivement, la classe ouvrière comprise reprendra le chemin des luttes. Eh bien, nous pensons que dans ce contexte-là, il faut absolument qu'ils aient en tête, justement, des objectifs qui peuvent véritablement inverser le rapport de force et qui fera que leur lutte ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà notre démarche, ce programme. Et nous disons aussi aux travailleurs que, il va falloir être prêt à se battre pour ça. Et il va falloir être prêt à se battre avec cette conscience que notre combat, on l'aura véritablement gagné si on va jusqu'au bout, si on se sent en situation de force, si on avance. Eh bien, il ne faudra pas s'arrêter en chemin. Et il faudra viser le renversement de la bourgeoisie. Il faudra viser justement l'expropriation de la bourgeoisie, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les travailleurs, la transformation de ces grands moyens de production qui sont aujourd'hui capital privé en capital collectif. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui militent seulement avec cet objectif d'un meilleur partage des richesses. Nous pensons qu'il n'y aura pas de meilleur partage des richesses. Vous avez vu Pinault, vous avez vu Arnaud, vous avez vu, ils sont pleins, voilà, ils sont assis sur une montagne d'argent. Ils sont, quand ils le veulent, ils le sortent, leur fric. S'ils veulent se faire un bon coup de pub, il n'y a pas de problème. Vous avez vu comment ils, en 48 heures, il y en a un, il a trouvé 100 millions, l'autre 200. C'était une surenchère. Mais ces gens-là, voilà, leur argent, ça doit leur servir pour leur faire de la pub. Ça doit leur servir pour faire prospérer leur fortune, encore et toujours. Ces gens-là, ils ne partageront jamais. Si vous regardez tout le pédigré de ces gens-là, la plupart, mais c'est des fraudeurs au fisc. Tous, quasiment, exclusivement. Et ils ont profité, la plupart du temps, des subventions, des aides de l'État. Et c'est comme ça que leur fortune a prospéré et que leur groupe s'est développé. C'est ça la réalité. Donc ces gens-là, ils ne partageront jamais. Et il n'y aura pas de partage des richesses si on ne prend pas nous-mêmes les commandes. Nous, on est capable de partager. Nous, on est capable de répartir le travail et d'organiser la société pour qu'elle réponde aux besoins de tous. Mais ces gens-là, ils en sont incapables. Voilà. Alors, effectivement, la perspective, eh ben, ça doit être celle-là. Ça doit être de dire, il faut avoir pour objectif de renverser cette classe sociale. Voilà. De la renverser, de lui prendre son pouvoir. Cette classe sociale, elle est parasitaire. Elle est parasitaire et elle nous mène à la catastrophe. À la catastrophe économique, je ne veux pas trop développer, mais enfin, le capitalisme, il est au bout du rouleau. C'est ça, la réalité. Tous les marchés, ils sont saturés, y compris eux, pour développer leurs affaires. Ils doivent mener une concurrence féroce. Et ils n'ont même plus envie, parce que les profits, ils ne sont pas garantis. Donc, la réalité, c'est qu'ils n'ont plus envie d'investir. Ça ne rapporte pas assez vite. Enfin, voilà, sauf dans un domaine. À la finance, ça par contre, les débouchés sont illimités, et là ça y va. Et là, effectivement, la finance, elle s'abreuve à ses milliards, et c'est des milliards et des milliards qui, effectivement, au quotidien, alimentent la finance et la spéculation. Mais à tel point que les experts même de la bourgeoisie, leurs cerveaux, leurs intellectuels, leurs économistes, expliquent que tout ça, ça va nous péter à la figure. C'est pas nous, communistes révolutionnaires, qui annonçons le prochain crack. Ce sont eux. Eux-mêmes. Leurs propres experts. Alors, ils nous expliquent, c'est comme en 2008. La charge explosive, elle est là. Et elle est même plus grande qu'en 2008. Donc, oui, ils nous mènent à la catastrophe. À la catastrophe économique. Et puis, à la catastrophe écologique aussi, mais je pense que là-dessus, j'ai quand même pas beaucoup à dire. Nous, évidemment, qu'on est préoccupés comme tout le monde, mais là aussi, vous voyez, cette question écologique, eh bien, on pense qu'elle pose le problème d'organiser collectivement la société, de l'organiser sans cette loi du profit, sans ce marché, sans cette concurrence aveugle. Il faut qu'on puisse prendre en main ces grands groupes industriels et financiers. Le problème de l'écologie, ce n'est pas un problème individuel. Je sais bien qu'il y a une pression permanente pour nous dire que chacun doit faire son petit geste, hein, arrêter son eau, mettre un petit panneau solaire sur son balcon, et puis, bon. Mais la question, mais le problème, c'est qu'on ne résoudra pas le défi qui se pose à nous si on raisonne comme ça. Il faut qu'on réorganise toute la société, qu'on réfléchisse à notre façon de fabriquer de l'énergie, comment on se déplace, comment effectivement on produit. Et ces questions-là, si on veut non seulement apporter des réponses, mais les mettre en œuvre, il faut qu'on ait en main l'activité économique. Il faut qu'on prenne, encore une fois, le pouvoir. Donc renverser effectivement la classe capitaliste, l'exproprier, oui, c'est une perspective aussi qu'il faut mettre dans les consciences ouvrières et qu'on fera tout pour qu'elle soit vivante dans le cadre de ces élections. Et alors, je voudrais finir sur l'Europe, parce que bien sûr qu'on a aussi une vision de l'Europe et on a des perspectives. Hein, pour nous, l'Europe, ça devrait être une Europe véritablement unie, une Europe véritablement unie et fraternelle, l'Europe de la coopération des peuples, c'est ça qu'il faudrait. Hein, nous, on est contre les frontières. On est contre ces drapeaux nationaux qui servent aux dirigeants à jeter les peuples les uns contre les autres. Et on pense que on est sur une seule et même planète. Hein. Nous, on fait partie de ceux qui avons coutume de dire que notre pays, c'est la Terre, et que notre patrie, c'est l'humanité. Hein. On est convaincus que notre sort, il est profondément uni à l'échelle de la Terre, et que les problèmes, on doit les résoudre à cette échelle-là. Voilà. Et ça fait un siècle, le courant dont on se réclame mettait en avant ce mot d'ordre des États-Unis socialistes d'Europe. C'est-à-dire cette idée que les travailleurs au pouvoir, ils encourageraient d'autres travailleurs aussi à faire la révolution et que de république socialiste, de gouvernement ouvrier à gouvernement ouvrier, on ferait cette grande Europe fraternelle des peuples. Et c'était un mot d'ordre qui n'était pas, basé sur, simplement un idéal, c'était basé réellement sur ce qui se passait, c'est-à-dire une économie de plus en plus interpénétrée, de plus en plus entremêlée, de plus en plus européenne. Et c'était il y a 100 ans, plus de 100 ans. Aujourd'hui, les liens économiques, les liens sociaux, les liens culturels se sont encore renforcés. Aujourd'hui, vous pouvez aller d'un bout à l'autre de l'Europe, vous trouvez les mêmes grands groupes, les mêmes entreprises, les mêmes capitaux, les mêmes... Regardez la classe ouvrière de France, c'est une classe ouvrière qui a des origines internationales, enfin des origines diverses. Hein. Donc les peuples ont été entremêlés. Et nous pensons que tout ça, c'est un fait. On est et que c'est plutôt un bien justement. Hein. Eh bien, il faut effectivement viser à organiser l'économie sur cette base-là, mais une économie supérieure, justement, parce que prise en main et contrôlée par les travailleurs, et une économie qui serait organisée pour bien des choses à l'échelle mondiale, oui, et puis pour d'autres, localement, là où ça se pose. Mais voilà nos perspectives. Hein. C'est des perspectives, des perspectives internationalistes. Hein. Maintenant, on n'est pas des rêveurs. Hein. On sait très bien que la construction européenne, elle est à 1000 lieues de ce que je vous ai décrit. Hein. Cette construction européenne, elle n'a rien à voir avec ça. Hein. Et il ne faut pas s'en étonner. Hein. Elle a été construite par et pour la bourgeoisie. Toute son histoire, c'est l'histoire de marchandage sordide entre la bourgeoisie française, la bourgeoisie allemande, italienne, en permanence, voilà. C'est une Europe qui a été qui a toujours été traversée par des rivalités, par de la concurrence, et c'est d'ailleurs ce qui explique que parfois elle a avancé et parfois elle a reculé, et qu'aujourd'hui, y compris sous l'impact de la crise, eh bien elle est en train de se défaire, cette Europe. Et puis, évidemment, c'est ce qui explique que les travailleurs, ils n'ont rien obtenu. Le sort des travailleurs n'a pas du tout avancé dans ce cadre de l'Europe. Hein, mais encore une fois, ce n'était pas fait pour. C'était fait pour le business, c'était fait pour les capitalistes. Hein, donc, et puis, comme toutes les institutions qu'ils contrôlent, eh bien ils s'en servent. Ils s'en servent au contraire. Ils s'en servent pour imposer leur domination, et ils s'en servent pour imposer leur domination sur les travailleurs. Hein, tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est vrai que les patrons français peuvent aller tranquillement à l'autre bout de l'Europe pour exploiter des salariés bulgares ou polonais en les payant 3 ou 4 fois moins. Voilà, c'est ça la réalité. Donc nous savons très bien que voilà, nous pensons qu'il n'y a rien à attendre de la construction européenne telle qu'elle est, il n'y a rien à attendre de cette Union européenne qui est dominée par le grand capital. Ça, c'est une évidence. Donc nous, on pense que les travailleurs, ils n'ont rien à en attendre, mais ils ont tout à perdre. S'ils pensent qu'il faut se replier sur ses frontières nationales. Voilà. Ils ont tout à perdre s'ils pensent que la solution, c'est de se replier sur les frontières nationales, parce qu'en réalité, on n'échappera pas à ce grand capital. Ce grand capital, il domine. Il domine l'Union européenne, c'est ce qu'ils appellent les lobbies. Mais il domine aussi en France, les institutions. C'est lui qui commande au gouvernement, c'est lui qui commande. Ce n'est pas en revenant, en se repliant sur des frontières nationales qu'on échappera à l'exploitation, qu'on échappera à la rapacité capitaliste. On n'y échappera pas. Les frontières, ça ne peut pas nous protéger. Même pas de la concurrence, en fait. Même pas de la concurrence. La concurrence, elle est au cœur même de cette société capitaliste. Et on ne s'en sortira pas si on ne la renverse pas. Hein, les frontières, ça ne peut pas nous protéger de la crise. Ça peut nous protéger de la crise ? Sûrement pas. Vous savez, on nous avait fait le coup avec le nuage de Tchernobyl qui allait s'arrêter aux frontières et que la radioactivité, elle n'atteindrait pas la France. Mais c'est pareil, la crise financière, faut pas croire. Hein. Mais bien sûr qu'elle ravagera toute la planète. Et c'est les travailleurs qui la subiront et qui la paieront en premier lieu. Donc nous, on pense que les frontières, ça peut pas nous protéger. Non seulement ça peut pas nous protéger, mais les frontières, elles sont un obstacle pour les travailleurs eux-mêmes. Elles sont un obstacle et elles sont un obstacle pour les pauvres. Et nous pensons, dans ces élections en tout cas, on affirme le droit qui nous semble être essentiel, élémentaire, le droit à tout être humain sur cette planète de pouvoir circuler, de pouvoir se déplacer. Voilà. On n'a pas tous la chance de pouvoir vivre, de pouvoir gagner son pain là où on est né. Hein. Et bien, il faut pouvoir circuler. Il faut pouvoir franchir des frontières. Hein, il faut pouvoir. C'est une liberté essentielle pour les travailleurs. Et ces frontières, en réalité, regardez quand on est riche, quand on appartient à la classe bourgeoise, il y en a pas des frontières. Il y en a pas de frontières. Ah mais eux, ils passent toutes les frontières. Ils peuvent même s'acheter des passeports. Et y compris des passeports européens quand ils ont le portefeuille bien garni. Donc les frontières, c'est un obstacle uniquement pour les pauvres. Et en plus, ces frontières et cette politique qui consiste à se replier sur soi et qui désigne l'étranger, le migrant ou je ne sais qui ou un autre pays comme nos ennemis, c'est un poison pour la conscience ouvrière. C'est le contraire de la conscience de classe, justement. Donc nous, eh bien, effectivement, nous affirmerons cette nécessité de défendre l'objectif de la libre circulation et de la libre installation de tous. Hein, et cette nécessité que les travailleurs ils ne se laissent pas diviser, qu'ils fassent bloc. Hein. Finalement, cette Union européenne, elle a unifié les travailleurs d'Europe dans un même sort. Le chômage, la précarité, les bas salaires. Hein, c'est ça la réalité. Eh bien, il faut que les travailleurs ils se battent sur la base de ce programme qui peut effectivement combattre cela. Donc le programme que j'ai décliné tout à l'heure, eh bien en fait il peut être dit dans toutes les langues. Hein. Eh bien ça tombe bien parce que ce sont des élections européennes. Hein. Donc Donc voilà, en résumé, je crois avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dans ce premier temps. Et puis maintenant, je vous laisse la parole.